Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission, puisque nous sommes en sortie de match, des matchs d'ailleurs qui se terminent à peine du côté de Madrid. En tout cas, ce que nous pouvons dire à cette heure, eh bien, c'est que Cristiano Ronaldo a marqué un triplé après un match difficile et intense. Les Merengues ont apparemment décroché une nouvelle demi-finale, mais nous y viendrons à ce match donc qui se termine peut-être bien pour le Real, peut-être mal pour le Bayern, ce n'est pas encore sûr. Du côté de l'Angleterre, eh bien l'Atlético Madrid est en demi-finale de la Ligue des Champions, sa troisième qualification dans le dernier carré en 4 ans. Les Colchoneros ont arraché le match nul en Angleterre où les Foxes sont passés bien près de l'exploit. Il leur aura manqué un but, peut-être ce but qu'ils n'ont pas marqué au Calderón et dont nous parlions tout à l'heure. Et puis le PSG qualifié pour la finale du championnat de France. En effet, en difficulté à Metz, les Parisiens ont été sauvés par Blaise Matuidi, auteur du but de la victoire. Une victoire sur le fil des Parisiens, mais qui leur permet donc de rêver et de toujours être en course dans le titre de champion de France. Et pour parler eh bien, de tous ces matchs de la fin d'après-midi et de cette soirée, il y a Nabil Djellit et Patrick Juillard avec nous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir Annie,
bonsoir,
bonsoir
à tous.
Nabil Djellit de France Football et Patrick Juillard, notre camarade de foot Africa 365. Et puis Christophe Jousset est là pour la rédaction.
Bonsoir, bonsoir Annie.
Christophe, quelle actualité, hein, on a du mal encore.
Ah oui, on est encore sur ce match là où le Real mène 4 buts à 2 face au Bayern Munich à la dernière minute de la prolongation. Et donc le Real qualifié.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Parce que si, voilà. Si le Bayern marquait, alors là, il se passerait quelque chose. Mais le Bayern étant à 10, effectivement. Alors, pour m'accompagner, il y a Julien Lung qui est à la réalisation. David Finzel, toujours fidèlement derrière la vitre pour nous aider dans tout cela. Radio Foot, c'est parti. Et le Real, donc, en passe de se qualifier. Road to Cardiff, c'est ce qui était écrit tout à l'heure hein, dans les tribunes. On va y revenir à ce match, voilà, qui est terminé. Ça y est, Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti se saluent. Mais c'est vrai que Carlo Ancelotti est un peu tendu. Cette demi-finale, donc, pour le Real Madrid, ça a été long à venir, on peut dire, Nabil.
Ouais, j'avais envie de vous dire, Annie, c'est road to Tardif, parce qu'ils ont mis un peu de temps pour être franc avec vous. Ils ont mis un peu de temps.
On attend oui, un mois
oui,
de vous,
oui, Nabil. Oui, oui, oui. Ils sont qualifiés en demi-finale, tout comme l'Atlético, on va en parler. La Liga domine comme jamais l'Europe du football. Un match, moi.
Continue à dominer,
continue.
Parce que c'est quand même régulier.
C'est récurrent, vous avez raison. Un match, moi, si je fais partie des gens qui ont payé leur billet, là, je suis content. On pourra discuter des faits,
vous
des
avez
aléas.
Il y a beaucoup de buts, c'est ça?
Il y a du spectacle, il y a les meilleurs joueurs du monde, il y a Ronaldo.
Il y a du suspense aussi.
Il y a du suspense.
Que ça a commencé à se définir aux prolongations.
Donc, après, on va pouvoir rentrer dans les détails, expliquer, voilà, c'est juste, pas injuste éventuellement. Le rendu à tel, sur la première mi-temps de la part de Ronaldo était très moyen, mais en deuxième mi-temps, c'est un extraterrestre, ainsi de suite. Mais très sincèrement, moi, Annie, le football, je l'aime pour ça. Je l'aime pas pour ce que j'ai vu cette semaine, notamment dans d'autres situations. Mais le football, on l'aime pour du spectacle.
Il y a des choses que j'ai vues ce soir que j'aime pas non plus. C'est-à-dire des buts hors jeu d'un mètre accordés, des expulsions injustifiées.
Il y a toujours des rabat-joie, de toute façon.
Ah, non, c'est pas rabat-joie, mais ce match, il ressemblait à une finale avec tout le mauvais côté d'une finale. C'est-à-dire des joueurs un peu tendus qui ratent des choses qu'ils ratent pas d'habitude. Et puis, bon, la fatigue, à la fin, c'est sûr que ça pèse sur les organismes. Et on l'a vu, l'équipe qui recevait a été avantagée, ce qui est normal. Hein.
On a vu quand même, Patrick, deux grosses équipes européennes, avec un match et une intensité terrible.
On sait déjà que c'est des bons joueurs. On n'a pas besoin de ce match pour en avoir confirmation, mais... Je suis désolé, ça laisse un drôle de goût dans la bouche de voir des matchs jouer sur des erreurs aussi flagrantes.
Ouais, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on a été aussi, est-ce qu'on a, comme par exemple le Barça bat le Paris Saint-Germain 6-1, il y a eu plus d'erreurs d'arbitrage Et en France, on en a beaucoup moins parlé.
Le match n'était pas équilibré. Le Barça, le PSG s'est fait marcher dessus tout le match. Bon, Patrick, là, le Bayern Munich a fait un bon match.
On va parler des erreurs d'arbitrage. Sinon, parce obligé, que le fait est acquis. On va y revenir, mais pour l'instant, on va tout de suite, du côté de Madrid, dans les tribunes, où se trouve Pierre Chaperon. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors racontez-nous comment le stade de Santiago Bernabéu a reçu finalement ce triplé de Cristiano, cette qualification, énième qualification de cette équipe dans une demi-finale de Ligue des Champions et surtout cette tension jusqu'à la fin de la rencontre.
Ouais, tension, c'est ça. Énormément de tension jusqu'à la prolongation et jusqu'à ce but de l'égalisation de Cristiano Ronaldo. On était un peu tous dans l'expectative, côté supporter du Real. Et puis Cristiano est venu sauver un peu la Maison Blanche.
Alors, on a vu quand même une équipe du Bayern très très en forme en début de match, qui s'est peu à peu éteinte. Après, on y reviendra, Patrick, avec vous quand même sur l'état de force. Mais on a vu du répondant du côté du Real et peut-être le joueur du match. En tout cas, c'est ce qu'on se disait nous en regardant ce match. C'est alors Cristiano certes qui a marqué, mais aussi Ronaldo, le Brésilien.
Marcelo,
pardon.
Il est brésilien aussi, donc ça va. C'est pas une grosse erreur.
Marcelo a fait un match superbe. Modric vraiment qui règle le milieu de terrain. C'est lui qui ajuste le jeu du Real Madrid et ça depuis quasiment 3 ans. Les deux sont vraiment remarquables.
Moi, je suis d'accord avec vous, Annie. On parle pas assez de Marcelo, hormis les coups francs. C'est l'équivalent de Roberto Carlos pour moi.
Complètement.
Parce qu'il n'a pas cette qualité d'écouter. Et puis de toute façon, il n'a pas les coups francs, il n'y a personne qui discute. C'est Ronaldo, peu importe où ils sont situés. C'est lui qui les tire. Donc tu ne discutes pas. Marcelo est un joueur fantastique. C'est un joueur, vraiment, il perpétue la tradition, des joueurs brésiliens de couloir. Carlos Alberto,
Cafu, Maicon,
Branco dans les années.
Et qui là,
80.
Va sur la ligne pour empêcher un but, pratiquement.
Il va toujours au bout de l'effort. Une justesse technique très au-dessus du lot. C'est un garçon qui pourrait jouer à d'autres postes. Il est tellement fort. Quand t'es aussi fort que ça, on peut très bien t'utiliser en deuxième milieu de terrain dans l'entrejeu.
D'ailleurs, on l'a vu percer dans l'axe aussi ce soir. Pas seulement dans le couloir.
Et donc, c'est bien. C'est sur l'avant-dernier.
Non, mais je trouve que c'est bien de mettre le curseur sur lui parce qu'en fait, on parle pas assez des latéraux du Real. Carvajal a énormément progressé. Il s'est fait un nom. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui puissent le déloger.
Vous avez pas progressé dans la prononciation espagnole, par contre.
Carvajal. Non, mais je peux le prendre.
Carvajal,
je vous en prie.
Pierre, parce que vous êtes évidemment dans le stade où vous allez tout à l'heure aller voir les joueurs. Il y a quand même des faits de match. C'est l'exclusion de Vidal. Comment a été pris ce carton rouge, disons, dans le stade?
Vidal était un peu un récidiviste et je crois qu'il fait une deuxième faute après son premier carton jaune. Et là, le public espagnol scande fuera, 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 qui veut dire dehors.
Oui. Donc, mais ils ne sont pas arbitres quand même.
Non, ils ne sont pas arbitres, mais ils peuvent mettre la pression.
On n'est pas à Bastia, on est à Madrid.
Oui. D'ailleurs, très bonne ambiance au Bernabéu et aux alentours. Il y a eu quelques petites échauffourées à la mi-temps du côté des supporters du Bayern, mais rien de très grave de ce que nous en savons pour le moment. Mais Vidal, quand il a été exclu, là aussi, ça a été un petit ouf de soulagement côté Real Madrid.
Oui, on avait l'impression de revivre le match aller. Christophe.
Ouais, c'est paradoxal en fait cette expulsion de Vidal parce que il est expulsé à la 84e sur un deuxième jaune et en fait il aurait dû, comme le disait Pierre, être expulsé bien plus tôt à la 47e. C'est là qu'il commet une faute sur Casemiro et là il méritait un deuxième jaune. Il aurait dû être expulsé donc en début de deuxième période. Il l'a été en fin de deuxième période alors que sur cette action là précisément il n'y avait pas faute.
Mais moi je veux bien qu'on parle de l'arbitrage, mais dans ces cas-là, prenons un peu de perspective sur la double confrontation. Souvenez-vous, le pénalty que Vidal ne transforme pas. Il n'y a jamais pénalty non plus. Non, mais je veux dire, les erreurs, il y en a, ça va remettre sur le tapis, que ce soit pour le Real ou le Bayern, moi je m'en fous, je ne suis pas partisan, ça va remettre à Nice sur le tapis le débat de la vidéo. Moi, je suis pour la vidéo, je m'en cache pas. Alors, soit on est pour la vidéo, et dans ces cas-là, on ne discute pas, soit on n'est pas pour la vidéo, et derrière, on ne se plaint pas.
Non, mais il y a des situations sur lesquelles la vidéo est adaptée. Pour le hors-jeu, la vidéo est adaptée puisque c'est une histoire de ligne franchie ou pas franchie. Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu.
On commente cela autour de vous, Pierre Chaperon, dans la tribune de presse, j'imagine, qu'on commente peut-être ce but hors-jeu de Cristiano Ronaldo.
On l'a pas forcément vu parce que moi, j'étais pas forcément bien placé pour le voir. On l'a surtout vu sur les écrans de contrôle.
Eh oui.
On l'a pas forcément commenté et puis de toute façon les erreurs d'arbitrage elles font partie quasiment du jeu. C'est triste de dire ça, mais voilà, elles existent.
Non mais.
Donc là je pourrais pas vous dire si c'était pour ou contre. J'ai pas plus d'informations que ça.
Bon, en tout cas, une victoire sur le score de 4-2. Pierre, une chose encore, on a vu Carlo Ancelotti un peu furieux, évidemment, par rapport à tout ça, mais ils se sont salués avec Zinedine Zidane, et on sait bien qu'entre les deux hommes, il y avait aussi en jeu une certaine passation de pouvoir.
Oui, bien sûr. Ici, on en a pas mal parlé de cette passation de pouvoir. Le maître et l'élève, c'était un peu... Les thèmes abordés un peu en Espagne, où ils s'adorent, ils se respectent Ancelotti et Zidane, et je crois que c'est ça le plus important dans leur relation ce soir.
Ils ont appris l'un de l'autre, en tout cas, et ça, évidemment, c'est très important.
Il y a une image à la prolongation, où Zidane va au centre de ses joueurs pour les motiver. Ancelotti, pas tout de suite, mais il le fait après. Et en tribune de presse, on rigolait en disant « le maître imite l'élève ».
Ouais. Ben comme quoi, hein, quand Ancelotti revient dans Santiago Bernabéu, vu que Zidane a été longtemps sur le banc avec lui, ça ne pouvait que faire penser à ce genre de choses. Merci beaucoup Pierre Chaperon, on vous laisse continuer et aller vers les joueurs pour recueillir les réactions d'après-match. À bientôt.
À bientôt. Et Madrid, deux équipes en demi-finale. Hein.
Oui, vous inquiétez pas. Ça ne nous a pas échappé. Bravo, vous êtes dans la bonne ville. Vous allez pouvoir voir des matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Merci Pierre. Nabil.
Oui, enfin des faits d'arbitrage, du jeu quoi. J'ai envie qu'on parle aussi du jeu parce que des buts hors jeu, on en a vu dans l'histoire. Hein. Et c'est pas terminé, ça va continuer. D'ailleurs, ce soir, on a quand même vu un match fantastique. Vous parliez de la première mi-temps du Bayern, Ribéry et Robben, 34 ans chacun. Amenés à être remplacés par Douglas Costa et Coman, mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sonnent la révolte du Bayern. Ça, moi, j'ai apprécié le retour de Lewandowski également, qui a été précieux. Il n'était pas là à l'aller. Une équipe cohérente qui va chercher le Real chez elle. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'aller chercher le Real comme ça. Moi, je suis d'accord avec Christophe.
Qui mène 1-0, qui ouvre le score.
Tout à fait. Ce soir, moi, j'ai vu deux poids lourds du football européen. Certainement deux des trois meilleures équipes, parce que pour moi, la troisième, c'est la Juve. Après, on peut toujours discuter de l'Atlético Madrid. C'était coup pour coup. Tous les ingrédients étaient réunis. Bon, dans la dramaturgie, l'arbitrage a joué également son rôle. On pourra en discuter parce que
ça gâche un peu quoi.
Bah ça dépend.
Moi
comment
ça me le gâche quoi en tout cas.
Ça dépend comment on situe. Ensuite on peut toujours discuter du penalty de Robben parce qu'il y a des arbitres qui peuvent siffler simulation. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est Zidane qui a réorganisé son équipe. Benzema ne méritait pas de sortir. Il jouait pour les autres. En première mi-temps, il est oublié par Ronaldo. Zidane le sort, c'est un peu injuste. Il rentre Asensio.
Il peut pas sortir Ronaldo, vous le savez bien.
Oui, mais il pouvait sortir Isco. Mais bon, bref, il rentre Asensio et il met Ronaldo en pointe. Finalement, il aime jouer tout seul. Bah vas-y, joue tout seul, mon pote. Il a joué tout seul, il a mis 3 buts.
Ça a marché. Ouais.
Alors 3 buts plus 2 à l'aller, ça fait quand même 5 buts.
Voilà, c'est tout.
et Cristiano Ronaldo en est à 103 buts. 103 buts en compétition européenne.
Et à 101 buts uniquement en Ligue des Champions.
Et disons-le,
était à 98 avant le
match. Et disons-le, parce que ça a toujours été le prisme qui a nourri beaucoup de nos discussions, il met aussi à distance son rival potentiel, enfin son vrai rival, Messi, à 7 buts, ce qui est non négligeable.
Mm-hmm. À moins que Messi ne marque beaucoup demain soir, mais ça sera...
Ah, mais on ne joue pas le PSG à chaque fois.
Discussion
tout à
l'heure.
On a l'impression qu'en fait, Cristiano Ronaldo est devenu un peu le dernier étage de la fusée du Real. C'est-à-dire que il est moins influent globalement dans le jeu de l'équipe,
moins rapide,
mais il est
parfois
toujours aussi décisif et tueur, comme on dit, quand il faut marquer et finir le travail.
Mais ça pose une vraie question.
Et c'est fantastique, quoi.
Ça pose une vraie question sur son positionnement sur le terrain. Il fait moins de différence sur le côté, même s'il est capable de fixer, enfin de vous enrhumer, il n'y a pas de souci. Il l'avait fait lors d'un match en Ligue des Champions. Il avait, je sais plus qui, il avait terminé un joueur sur le côté, puis il avait fini par centrer en retrait. C'était le tour précédent, je crois que c'était contre qui qu'ils avaient joué le Real le tour précédent.
C'est une question qui.
Bon, bah une question piège, pas son
piège.
Non, mais en gros, ça pose la question quand même du garçon qui finalement doit être face au but. C'est là où il est aujourd'hui le meilleur, celui qui trouve. Hein, je le paye un verre derrière. Ça a marqué. Je pense que Napoli.
Oui, voilà.
Il avait mis Koulibaly. Souvenez-vous, l'international sénégalais. Excusez-moi l'expression, sur les fesses en faisant un enchaînement et en centrant en retrait. Mais je pense que t'es un joueur aujourd'hui de plus en plus qui va être amené à réellement jouer en numéro 9. Il doit partir de moins loin. Il doit terminer parce qu'il a une adresse incroyable et même arrêter.
Il a vu seul devant le seul devant le gardien.
Regardez, même arrêté avec il a un tel gainage parce qu'il travaille sur lui, il a un tel gainage que même arrêté, il frappe fort.
Patrick, vous le soulignez tout à l'heure, c'était quand même la bonne prestation du côté du Bayern de Ribéry et de Robben parce que comme on disait tout à l'heure, ils ont plus de 30 ans et finalement, c'était deux joueurs qu'on a vus encore en tout cas en début de match
C'était fantastique, très
c'est gênant.
Vrai qu'ils tiennent pas un match, enfin ils tiennent plus autant qu'ils tenaient avant. Bon ça on peut pas être et avoir été il y a forcément un déclin physique et on le voit aussi sur un peu sur Cristiano Ronaldo mais lui comme je disais, il laisse plus ses coéquipiers jouer pour lui maintenant. Alors que Ribéry et Robben, ils restent toujours des joueurs qui aiment porter le ballon, qui aiment faire des différences, qui aiment vraiment essayer de creuser l'écart entre guillemets sur leur côté. Et ça s'est vu, surtout Robben sur le match. Bon, Ribéry a fait un bon début de match aussi, mais c'est surtout Robben qui a été phénoménal.
On n'attendait pas de retrouver Ribéry à ce niveau-là. Je vous rappelle les blessures. On le disait même perdu pour le football. Ce soir, c'était un match à haute intensité. Ce soir, c'est la crème du football.
Ouais.
Il n'y a pas au-dessus.
Le Real a quand même super bien défendu ce soir. Et il encaisse un but sur un penalty.
Tout à fait.
Et sur un but contre son camp. La performance défensive aussi, parce qu'on parle de Ronaldo, de son triplé, elle est aussi à souligner.
À noter qu'il y avait quand même l'absence d'un garçon qui est un vrai taulier, qui est en train de discuter d'une prolongation de contrat. Le Real lui propose une année, lui en voudrait deux. C'est pour ça que son nom est sorti à Manchester City et est sorti également du côté de la Chine ou même du PSG. C'est Pepe, qui était pas Pep ou Pepe, je sais pas comment on prononce, Annie, vous allez me le dire, qui était pas là ce soir. C'était Nacho qui était à sa place
en
charnière centrale. Gareth Bale n'était pas là pour les efforts défensifs parce qu'on a vu justement que sur les côtés ça passait beaucoup. Et ce qui est intéressant, moi j'ai encore vu les images, il y a aussi l'avènement d'un garçon dont il faut parler. J'ai tweeté avec beaucoup d'humour que le Paris Saint-Germain avait acheté Ressé et que c'était plutôt Asensio qu'il fallait acheter.
Sauf qu'il ne voulait pas le vendre.
Non, je sais bien. Qui est la pépite quand même du côté du Real, un fantastique pied gauche. Et le but qu'il met à la fin, c'est pas un but d'amateur, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, c'est la fin du match, mais en face c'est Hummels, c'est quelqu'un qui défend en recul frein, qui est extrêmement intelligent, il passe en revue toute la défense et il met un but, enfin c'est des buts qui ne trompent pas ça.
Et puis on a vu aussi rentrer Lucas Vazquez, qui est un des jeunes aussi montants de cette équipe et que Zinedine Zidane n'hésite pas à mettre dans des matchs de Ligue des Champions.
Lui, je demande quand même encore un peu à voir. Autant Asensio, pour moi c'est un crack, autant Lucas Vazquez, je demande encore un peu à voir.
Ouais, Lucas Vazquez, c'est un profil Jesús Navas par exemple. Ouais. C'est un garçon qui prend la profondeur, c'est un peu comme Nabil Djirar ou des joueurs comme ça, c'est des joueurs ou Ferreira Carrasco, c'est des joueurs qui ne font pas trop de fioritures, qui sont beaucoup plus altruistes. Il en faut.
Mais
dans
ils
un
sont
affectif.
Plus ailiers dans l'esprit. Alors que Asensio, c'est plus un, il va plus partout. Enfin,
Asensio, ça va.
Il a plus de volume.
Ça va aller tout en haut. Il y est déjà d'ailleurs.
Est-ce que le Bayern, Christophe, allez-y.
Non, je pensais à Hummels et à la réflexion de Nabil. Hummels, il était incertain pour ce match parce qu'il souffrait des adducteurs, je crois. Donc, il a quand même tenu la baraque et la prolongation a été un peu trop.
Ouais,
et c'est vrai que
sur
cette dernière course d'Asensio, là, il n'a plus rien dans les chaussettes.
Souvenez-vous de l'action en première mi-temps, il faut le dire. Il est fantastique.
Ouais.
Il est entre Benzema et Ronaldo. Il joue en recul frein. Il se jette pas. Alors, Ronaldo, il attendait que ça, d'y aller tout seul, évidemment, on le connaît. Mais n'importe quel autre défenseur aurait été aspiré ou aurait moins bien joué le coup et l'action aurait été réglée en l'espace d'une seconde. C'est aussi ça l'intelligence de ce joueur qui joue beaucoup de l'extérieur du pied et qui me fait penser toute proportion gardée à Franz Beckenbauer.
Tiens, il y a un petit tweet là de notre ami David Lortolari. Il dit très belle finale, merci à tous et rendez-vous en août pour la reprise.
Très très bon.
Ça ressemblait vraiment à une finale.
Mais c'est ça.
Mais oui, mais par l'intensité et par le jeu effectivement. Mais les Allemands ont un peu piqué du nez avant la mi-temps. On les a vus déjà un peu faible et ayant quelques crampes. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de cette soirée de Ligue des Champions.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours en direct sur RFI après ces matchs de Ligue des Champions, toujours en direct avec Nabil Djellit et Patrick Juillard ainsi que Christophe Jousset. Alors nous vous avons évoqué jusqu'à présent la qualification avec beaucoup de suspense, avec du but, des buts et du spectacle à Madrid. Eh bien c'était la qualification du Real aux dépens du Bayern Munich. Et nous allons maintenant évoquer une autre qualification de l'autre club madrilène, comme n'oubliez pas de le rappeler, Pierre Chaperon, et il s'agit de l'Atlético qui a donc gagné du côté de l'Angleterre.
Philippe Luiz, le Brésilien de l'autre côté, oh oui, avec la tête croisée. Sao Niguez oublié par la défense et le but à l'extérieur, hyper important pour l'Atlético de Madrid qui mène 1-0. Chilwell qui contrôle, qui frappe mais qui manque, la reprise derrière le but. Jamie Vardy pour redonner l'espoir.
Et voilà, un partout, et cela signe la fin du rêve pour les Foxes. Sans doute, hein, y aurait-il eu une larme dans les yeux de ce renard, de ce regard du renard qui couvrait la tribune sans des supporters de Leicester au coup d'envoi du match. Il y avait une ambiance des grands jours hein, dans ce stade qui n'avait jamais accueilli de quart de finale de Ligue des Champions. L'Atlético ouvre la marque, et puis Jamie Vardy marque le but. Ils ont perdu peut-être au match aller ces Foxes, ouais, selon vous, Patrick?
Ils ont perdu au match aller. Alors excusez-moi, on va m'accuser d'être chafouin, mais ils ont perdu sur une erreur d'arbitrage puisque l'Atlético s'est vu accorder un penalty qui n'aurait pas dû être sifflé puisque la faute en question avait été effectuée en dehors de la surface. Mais sur les deux matchs, il y a rien à dire. De toute façon, quand vous avez perdu 1-0, donc vous n'avez pas marqué à l'extérieur et que vous encaissez un but dans le début de match. Il faut en mettre 3, donc ça complique singulièrement la tâche. On a vu une très bonne deuxième mi-temps de Leicester qui a vraiment essayé, qui a égalisé, qui aurait très bien pu mettre un deuxième but. Il y a eu des situations très chaudes et l'Atlético a beaucoup subi, beaucoup trop subi. Mais bon, la marge était suffisante pour passer sans trop trembler. Mais bon, c'est pas pour l'instant l'Atlético. Bon, c'est toujours très solide. C'est assez impressionnant par sa solidité, sa difficulté pour les adversaires. Mais ils n'ont pas encore eu de top équipe qu'on a éliminé en face.
Ils ont éliminé qui en huitième de finale? C'est les quiz de la soirée.
C'est tellement vieux les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Bon, les Leverkusen, c'est un peu le Arsenal allemand. Ils sont toujours éliminés en huitièmes de finale. Donc ils n'ont pas encore eu de gros tests, l'Atlético, mais ils peuvent être redoutables.
Ils ne vont pas voir se cacher longtemps, hein, parce que là, il reste plus que les poids lourds. Bah, soit ils ont été à fond sur les deux matchs et c'est inquiétant, soit ils ont adapté leur curseur à
l'adversaire.
Bon, ils m'ont jamais donné non plus l'impression d'être complètement en panique. À l'aller, c'est vrai qu'il y a ce penalty qui est plus que discutable puisqu'il est à l'extérieur de la surface. On pensait qu'ils allaient faire la différence, mais ils sont tellement habitués à gérer ce genre de situation qu'ils l'ont très bien fait face à cette équipe de Leicester en faisant le plus difficile. Encore une erreur défensive sur laquelle Albrighton et Fuchs ne sont pas très inspirés puisque Saul Niguez intelligemment est venu s'intercaler entre les deux pour placer sa tête suite à un centre de Philippe Luiz, le latéral brésilien. Ensuite, effectivement, il y a eu la révolte, mais peut-être aussi parce que l'Atlético a laissé venir de la part des joueurs de Leicester qui sont plus facilement trouvés. On a vu Mahrez avec plus de ballons, plus de centres. Et puis ce but de Jamie Vardy sur une situation un peu confuse. Ensuite, ils ont raté le coche, en fait, Leicester. Ils ont eu deux situations dangereuses avec une frappe contrée du Loa, l'Argentin, et une autre frappe contrée de Vardy. Pour le reste,
et un coup franc de Mahrez qui était un bon coup franc qui l'a mis juste au-dessus.
Voilà,
de la
barre, bravo. Alors globalement, on ferait mieux de parler de Leicester. Bravo à Leicester, oui, parce que c'est la fin d'une histoire, disons-le clairement.
Une sacrée aventure sur laquelle on n'aurait pas misé vu qu'en parallèle, ils menaient deux carrières, on va dire, l'une qui n'allait pas du tout en championnat, en première ligue jusqu'à il y a peu, et puis de l'autre côté, on avait quand même une équipe qui se tenait en Ligue des Champions européenne.
Ouais, sur le match quand même, Nabil parlait Vardy qui marque au terme d'une action confuse, c'est un peu le travers de Leicester ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément, moi j'ai vu énormément d'énergie, énormément d'envie, avec un public qui a été fantastique. Le tifo était magnifique au début avec les paillettes, mais ça n'a pas suffi. C'était parfois un peu brouillon dans le jeu, et il leur a manqué de la précision dans la zone de vérité en face.
C'est une équipe, si vous devez la qualifier, hormis peut-être Mahrez et Vardy, encore que Vardy, oui, c'est une équipe qui joue à l'énergie. C'est une équipe qui joue à l'énergie. Alors, ils ont modifié leur défense centrale. D'ailleurs, il l'a refait sortir à la mi-temps en mettant Ben Alaouane, le joueur d'origine tunisienne. Je ne sais pas s'il a des caps avec la Tunisie.
Il a été convoqué, mais il n'a pas de cap.
Voilà, donc il leur permet de ressortir le ballon plus rapidement. Ensuite, c'est quand même une équipe qui a des limites individuelles. Et d'être arrivé là où ils sont et d'avoir finalement... parce que quand on regarde bien, ils perdent pas de grand chose, quoi. Je veux dire, en termes de score technique, ils perdent 1-0, ils font 1-1. Donc, ils ont pas non plus été surclassés. Ils sortent la tête haute. C'est une belle aventure.
C'est une belle aventure terminée, en tout cas, pour ce qui est de la Ligue des Champions. Et puis, pas terminée en Première Ligue, parce que, apparemment, on le disait tout à l'heure dans Radio Foot, en première partie, ils auraient suffisamment de points pour sauver leur saison.
Ils sont 12e,
actuellement.
Non, mais ce qui va être intéressant, Annie, maintenant, c'est de savoir est-ce que Mahrez va partir ou pas, par exemple. Qu'est-ce que va faire Vardy? Voilà, on en est là maintenant.
À l'intersaison, et on aura beaucoup le temps d'en parler. Une chose encore, peut-être, sur cet Atlético. On regardait tout à l'heure les statistiques, Patrick. Diego Simeone conduit son équipe à une troisième demi-finale en 4 ans. Et dans ces 4 ans, il y a eu aussi deux finales perdues. On s'en souvient, 2014-2016, c'était face au Real Madrid. Et ils sont éliminés en quart de finale par le Real. Donc finalement, c'est quand même une équipe depuis quelques années, grâce sans doute à Diego Simeone, à cette rage de vaincre qu'on voit sur le banc toujours, qui emmène son équipe haut. Plus haut peut-être des fois qu'on l'attend.
J'ai un petit peu l'impression que Diego Simeone occupe le vide qu'ont laissé les équipes italiennes, c'est-à-dire qu'il pratique un jeu qui est à l'opposé globalement du toqué, du jeu espagnol offensif que peuvent jouer le Barça, ou même du football de transition rapide que peut jouer le Real Madrid, qui est quand même un football aussi assez offensif et flamboyant. Et lui, il arrive à perpétuer un peu, avec des moyens à lui et une manière d'approcher les matchs très argentine, qui est pas vraiment italienne, mais
un peu
avec
italienne, il y a
de l'Italie, mais il y a aussi le côté un peu Barras Bravas, enfin bon, argentin très âpre et rude. Et finalement, le cocktail donne quelque chose d'intéressant, puisque les équipes adverses peuvent être très désemparées face à ce bloc, mais quand même, moi je trouve que cette année, l'Atlético est moins rigoureux, encaisse plus de buts que les années précédentes, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Donc c'est quand même moins le coffre-fort imprenable que l'équipe paraissait être l'année dernière ou les années précédentes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des interrogations autour de cette équipe, mais bon, après ça va dépendre aussi du tirage. Si t'as Monaco par exemple, de toutes les manières, ça sera très ouvert. Ils connaissent parfaitement le Real. Et puis restera le troisième client qui est la Juve, qui est une équipe que je leur déconseille fortement.
Ou le Barça,
alors ça dépend lequel, quoi. Celui de la remontada ou celui de la démontada.
Faut voir.
Ils sont capables des
ça
deux.
Ça dépend si c'est l'aller ou le retour.
Ouais.
En tout cas, cette équipe, de toute façon, l'Atlético, même si elle change ou fait évoluer son style, même si on la sent moins solide, en tout cas...
Elle est là
et elle est aussi là en Liga parce qu'elle est troisième et que finalement...
Elle est là, à savoir qu'ils ont perdu quand même deux finales et que Diego Simeone, franchement, il a pris un sacré coup. Il est parti en vacances à Miami, je crois, et il a beaucoup réfléchi à continuer avec cette équipe. Imaginez, Annie, que ça soit le pouli d'or de la Ligue des Champions et qu'il fasse encore une finale et qu'il la perde. Ça pourrait aussi... c'est aussi rentré dans l'histoire... D'une autre manière, pas forcément la bonne, et c'est pas forcément mérité pour ce coach argentin, mais on n'en est pas là.
En tout cas, messieurs, ce qu'on peut remarquer ce soir, c'est qu'on a du 100% Madrid, le Real et l'Atlético. Les deux équipes sont en finale,
rien
en demi-finale, pardon.
Et c'est une habitude, donc il va falloir.
Oui, puisqu'elle jouait la finale l'an dernier.
Trouver un bon calendrier pour pouvoir organiser tous les matchs.
Alors, on va passer à un autre match qui a eu lieu dans l'après-midi.
Un autre match de Ligue des Champions?
Presque. C'était à quelques encablures de Paris. Et notre ami Philippe Zigraf aurait sans doute voulu être dans les gradins parce qu'apparemment, il y avait une ambiance de feu au stade Saint-Symphorien. C'était de la Ligue 1. Ouais. C'était pour le 31e journée. Match en retard du Paris Saint-Germain. On s'en souvient, c'est parce qu'ils avaient disputé la finale de la Coupe de la Ligue. Et en tout cas, eh bien, ceux qui ont failli faire la fête jusqu'au bout, c'était l'équipe de Metz, Patrick Juillard. Ils ont failli remporter ce match. Le PSG, quand même, ne s'est pas laissé faire au dernier moment. Score 3-2.
Oui, c'était vraiment un match qui a eu deux visages. Bon, une première mi-temps où le FC Metz ne voyait pas le jour et a été mené logiquement au bout d'une demi-heure. Et le PSG a ensuite fait le break. Et tout semblait vraiment se dérouler sans accroc, comme les bons plans de l'agence touriste pour le PSG. Et puis, en deuxième mi-temps, le FC Metz est revenu avec d'autres intentions. Le PSG a été un petit peu suffisant dans sa gestion de son avantage, hein, il faut le dire aussi.
Oui, bien sûr. Et avec Zlatan, ils n'en viennent pas les autres.
Deux buts splendides quand même du FC Metz. Un coup franc Juninho-esque de Jouffrigno, enfin Yann Jouffre. Et une action africaine magnifique avec un slalom d'Ismail Assar conclu par une passe parfaite pour Cheikh Diabaté qui met un but d'avant-centre à la Inzaghi là malgré son 1m95 et vraiment fantastique. Voilà.
À la fin du match, alors c'est Blaise Matuidi qui inscrit un doublé et qui inscrit notamment le troisième but parisien dans 94e minute, donc en toute fin de match. Il a reconnu à la fin ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a eu un certain laxisme, un peu de passivité de la part de ces Parisiens qui croyaient que c'était gagné. Écoutons l'analyse du match faite par Thomas Meunier.
Première mi-temps vraiment très très bonne, bon travail collectif, défensif, offensif, vraiment appliqué. Et en deuxième mi-temps, il y a eu du laisser aller. On a perdu beaucoup de ballons, que ce soit au milieu, on a fait beaucoup de fautes évitables autour des 16 mètres. On s'est vraiment compliqué la tâche et pour clôturer tout, on a raté 2-3 belles occasions. Je pense qu'on se met une sorte de pression inutile à 0-2 à la mi-temps. Tout le monde était en stress. On se facilite pas la tâche autant psychologiquement que physiquement. Et pour moi, voilà, qu'on puisse avoir confiance en nous, tout simplement achever le match qu'on a l'habitude de le faire et comme on l'a fait déjà dans le passé.
Thomas Meunier au micro de nos confrères de beIN Sport. Christophe Jousset, si par hasard le Paris Saint-Germain avait ramené ne serait-ce qu'un seul point de Metz, le championnat de France se terminait peut-être là pour eux.
Ouais, enfin il restait encore du temps, mais c'est vrai que à deux partout, là il y avait, comme disait Matuidi au micro de Canal après le match ou au micro de beIN, je ne sais plus, on s'est fait peur, à deux partout, à l'heure actuelle, Monaco et le PSG sont ensemble, hein, ont 77 points, sauf que Monaco compte un match de moins contre Saint-Etienne, qui n'est pas programmé, on n'a pas encore la date,
parce que le calendrier de Monaco est surchargé. Il pourrait même devoir jouer entre la 37e et la 38e journée, ce qui normalement est interdit par les statuts de la Ligue.
Ouais, c'est un peu le.
C'est un casse-tête de caser ce match. Mmh. Et la Ligue doit prier pour que Monaco soit éliminé en Ligue des Champions pour avoir des dates pour caser ce match.
Mais enfin, c'est vrai,
c'est
que
du mauvais esprit.
Si ils cherchent des dates, ils peuvent aller dans le Sahara, il y en a. Hein.
Mais c'est vrai que sur cette égalisation de Diabaté, on s'est dit tiens, le championnat est peut-être en train de basculer. Et je souligne en écho à ce qu'a dit tout à l'heure Patrick, le travail d'Ismail Assar,
exceptionnel,
qui nous a gratifié d'un ciseau fantastique sous la transversale il y a quelques jours en Ligue 1 déjà, et qui là a fait un centre au cordeau pour Cheikh Diabaté.
Il va pas rester, c'est tout. Voilà.
Non, mais
il n'est pas fait pour rester au FC Metz.
Il n'est pas prédestiné à rester puisqu'il est issu du centre Génération Foot dont était issu avant lui Papi Cissé, Sadio Mané et Diafra Sakho. Donc, a priori, c'est plutôt des joueurs pour l'export, pour l'Angleterre ou l'Allemagne, hein, ces joueurs-là.
Oui. En tout cas, c'est peut-être dommage pour eux, pour les Messins, c'est qu'ils n'ont pas réussi à tenir ce score de 2-2, alors que finalement, dans le temps additionnel, ils n'ont pas réussi à tenir ce score, alors qu'ils venaient d'égaliser, qu'ils ont raté surtout aussi un coup franc. Qui a
la barre transversale a sauvé Kevin Trapp.
Il n'a pas été très sérieux, Insberger, sur ce match, parce qu'il aligne une attaque bis, entre guillemets, et il rentre les cadors ensuite. Je veux dire, il y a un moment, ils ont aussi présenté...
Parce qu'il pensait au match de Lorient. Il l'avait dit avant le match.
C'est bête, parce que là, il y avait peut-être une fenêtre de tir. Alors, vous allez me dire, oui, il a rentré des gars, et ça a fait la différence derrière, comme Diabaté ou Sarr. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mettre vos meilleurs joueurs directement face au PSG. Donc, il a les qualités, il y a les joueurs pour. Donc c'est dommage pour eux. Bon, je les vois quand même se maintenir parce que eux ont trouvé, à la différence peut-être de Nancy et de Bastia. Bon, de toute façon, Bastia ils sont quasiment réglés, mais ils ont un buteur. Est-ce que Cheikh Diabaté, le Malien, n'est pas la meilleure recrue de l'intersaison, meilleur encore que Julian Draxler du côté du Paris Saint-Germain?
Oui, c'est
l'homme providentiel.
Nabil, vous avez raison de souligner l'apport de Diabaté dans cette équipe, puisque Mevlut Erding avait fait un très bon début de saison, mais n'a pas vraiment tenu la distance.
Ça devient Mevlut.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il a eu en première mi-temps une occasion et il a raté sa tête. Enfin, il n'a pas cadré sa tête, alors que c'est plutôt un bon joueur de tête. Mais le recrutement hivernal, et notamment sur les joueurs africains, a été très bon pour les équipes. Nakoulma à Nantes, c'est une vraie réussite. Ouais. Moubele à Rennes commence à enchaîner les buts. Diabaté à Metz, bon,
ah bah
on en a parlé.
Buts, hein,
donc c'est quand même intéressant tout ça. C'est les clubs français là, pour j'allais dire pas pour une fois, mais pour le coup, ils ne sont pas loupés sur ce mercato hivernal.
Recruter africain, voilà, c'est tout. C'est le slogan qu'on peut dire sur Radio France Internationale. Parce que moi, je le dis très tranquillement. À un moment, il y a une hype également en allant chercher. Alors, je dis pas qu'il faut pas. Hein, c'est bien la diversité, la variété dans le football. Mais à un moment, on s'est dit, on va moins chercher d'Africains, on va chercher des Danois, des Scandinaves. Mais rapport qualité-prix et au niveau talent, moi je pense que l'Afrique c'est bien au-dessus.
Mais pour revenir sur le match là où Metz craque alors qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel et qu'ils encaissent le dernier but à la 93e, c'est défensivement parce que quand on regarde bien l'action, on voit que toute la ligne défensive est totalement immobile et Bizevac notamment n'a plus rien dans les chaussettes non plus pour aller faire opposition à Matuidi. Et en fait, Matuidi a tout le temps qu'il faut pour déposer le ballon dans le petit filet.
Tout à fait.
Les anciens Parisiens ont parfois du mal contre leur équipe. On se rappelle de Sami Traoré avec Auxerre, qui avait pas non plus été très bon contre le PSG. Bon, c'est pas, je ne fais aucun sous-entendu, mais malheureusement, ça se passe souvent mal pour eux dans ces matchs-là. Et Bizevac n'a pas été bon, même sur le reste du match.
En tout cas, le Paris Saint-Germain qui donc vise le titre de champion de France, eh bien, tout reste à faire et tout est possible. Évidemment, le match en retard de Monaco changera sûrement beaucoup de choses. Voilà pour ce qui était des matchs du jour. Et on va essayer un peu de se projeter sur les matchs de demain. Et l'on revient donc vers de la Ligue des Champions avec eh bien, le seul club français encore en compétition. Il s'agit de Monaco, l'ASM qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors, on se souvient évidemment tous des conditions très particulières qui avaient précédé ce match. Les engins explosifs lancés contre le bus des joueurs et le report du match au lendemain. Alors que les supporters monégasques, ils veulent rendre aux Allemands leur grand accueil. On se souvient de ce hashtag sur les réseaux sociaux pour accueillir les monégasques restés quelques heures de plus. Eh bien, les joueurs du Borussia sont arrivés. Ils ont foulé la pelouse de Louis II ce soir. Ils se sont un peu entraînés. Dans quel état d'esprit sont donc ces jaunes et noirs, renforcés par leur victoire en Bundesliga durant le week-end, explique le directeur sportif de Dortmund.
Bien sûr, c'est bien d'avoir gagné avant d'aller à Monaco. Nous savons que là-bas, nos chances ne sont pas très élevées, mais il y en a une, nous en sommes conscients. Alors nous allons essayer de la prendre. Si l'équipe arrive avec plus de confiance, elle aura plus de force. Les joueurs ont fait un travail incroyable contre Francfort après ce qui s'est passé. Alors, face à Monaco, il y a toujours une possibilité de renverser la situation. Même si après l'attaque, tout le monde savait que nos chances allaient être réduites. Vous l'avez vu, ce n'est pas une confrontation normale. Donc il ne devrait pas y avoir d'attente normale.
Hans-Joachim Watz évoque ce match aller. Est-ce que au retour comme à l'aller, ce ne sera en aucun cas un match normal?
Bien sûr, puisque au match aller, les deux équipes n'étaient pas dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que Monaco, bien sûr, a été indirectement impacté par ce qui s'était passé, était inquiète de la situation, même de sa sécurité. Mais l'équipe qui a été touchée, blessée dans sa chair, meurtrie par l'attaque, c'est le Borussia Dortmund. L'UEFA a demandé à ce que le match se joue le lendemain. On sait bien que le calendrier est complètement bouché, donc c'était évidemment difficile de le faire autrement. Mais dans l'absolu, ce match n'aurait jamais dû se jouer le lendemain. Donc quoi qu'il arrive sur le match retour, la double confrontation est faussée par la situation du match aller.
Vous le pensez aussi, Nabil ?
Oui, évidemment, il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal, disons-le clairement. Il y a des joueurs, peut-être, on ne le sait pas, puisqu'on n'est pas tous égaux face à ça, qui ont peut-être un contre-coup émotionnel. Moi, j'en sais rien. J'étais pas dans le bus. J'ai pas vu. Je me suis pas dit peut-être que j'ai failli passer parce que sur le coup, tu fais face, mais derrière, il y a forcément un contre-coup. Maintenant, si
Burki en a témoigné. Ah, voilà. Le gardien du Borussia a dit que
il a du mal à dormir.
Il n'arrivait pas à dormir, qu'il se réveillait pas en sueur, mais enfin, il était. Voilà, il a subi un traumatisme, clairement.
Donc cette équipe de Dortmund. Après, bon, quand vous êtes sur le terrain, on a tendance à oublier. On joue au foot parfois aussi pour. Quand on n'est pas professionnel, on fait du sport et on joue au foot parfois pour oublier ses problèmes. Alors, c'est vrai que c'est des gros problèmes pour le coup, mais quand vous êtes dans le feu de l'action. On va dire chimiquement, votre cerveau sécrète des choses plutôt positives d'une certaine manière. Le match va être intéressant, je pense que c'est...
Rappelons le score du match aller, 3-2 en faveur de Monaco. Évidemment, il leur faut inverser la tendance et c'est pas facile.
C'est possible, Annie. C'est possible parce que ce soir, le Bayern était exactement dans la même situation. Ils l'ont inversé pendant un moment. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est deux équipes miroirs avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et quand vous avez... Alors, OK, on peut toujours discuter, Bernardo Silva, tout ce que vous voulez, mais quand vous avez Aubameyang qui fait la saison de sa vie, 27 buts en 28 matchs ou 26 buts en 27 26. Matchs en Bundesliga, Kagawa, qui est un joueur merveilleux, Dembélé, qui est capable de vous plier, de vous gagner un match tout seul, Royce... qui va peut-être revenir concrètement, d'accord. L'avantage, il est clairement pour Monaco, mais Dortmund a les armes comme peu d'équipes européennes ont pour retourner la situation.
Mais le problème de Dortmund est défensif, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup, mais rarement sans encaisser. Donc, comme ils ont déjà pris 3 buts chez eux, avec la règle du but compte en double à l'extérieur, je crains que ce ne soit beaucoup quand même à remonter, même si je suis d'accord avec Nabil, ils en sont tout à fait capables.
Ah oui.
Et qu'en plus, ils ont perdu Bartra, évidemment.
Et voilà, en plus,
ça n'arrange rien. Qui a quitté l'hôpital aujourd'hui, le blessé, il est sorti après avoir été opéré.
L'ancien du Barça.
Oui. Peut-être que aussi Monaco a quand même des failles parce que vous parlez de la défense de Dortmund. Eux aussi, ils en encaissent.
C'est deux équipes miroirs, comme l'a dit Nabil, et à ce niveau-là également Monaco. Et moi, je trouve aussi qu'on ressent chez ces Monégasques une certaine usure physique.
Ah ouais, c'est surtout ça.
Il n'y a plus du tout la même intensité, mais malgré tout, c'est ce qui est assez bluffant, c'est que Monaco arrive à bien finir ses matchs. Même quand ça pioche en début de match, Monaco arrive à remettre un coup en fin de match et c'est intéressant.
Quand tu gagnes, la fatigue, tu la sens un peu moins, mais on sent qu'il y a moins de gasoil.
Ah oui.
Effectivement, et notamment sur les côtés. Jardim a un peu ménagé du monde face à Dijon, il en a fait rentrer. Mais je pense notamment aux deux latéraux qui sont essentiels dans le jeu de Monaco, Mendy et Sidibé.
La semaine qui s'annonce pour Monaco, elle est quand même terrible au niveau des enjeux, parce qu'il y a ce match de demain donc contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Attention au faux pas. Il y a la réception de un déplacement à Lyon en Ligue 1
soir.
Pour le compte de la 34e journée. Et dans la foulée, le 26, la demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Donc,
faut peut-être faire une impasse, Christophe. C'est difficile de faire une impasse sur Nabil, la demi-finale de la Coupe de France, mais l'objectif, je le rappelle, des propriétaires et du propriétaire de Monaco, c'est pas un titre, c'est le titre de champion de France.
Oui, mais faire une impasse est très risqué, puisque si vous faites une impasse sur une compétition et que ça se passe mal ensuite dans celle sur laquelle vous n'avez pas fait l'impasse, il vous reste rien.
Ouais, mais à un moment, faire des choix dans la vie.
Alors l'autre rendez-vous de la soirée, et celui-là, eh bien, il promet du spectacle, comme toujours, on va dire, au Camp Nou, parce que là-bas, il se passe parfois beaucoup de choses et des choses surprenantes. Le PSG le sait bien. Est-ce que le Barça, et ce Barça, peut refaire son retard de 3 buts face à la Juventus de Turin, comme il y a un mois, quand ils avaient rattrapé leur retard de 4 buts donc sur le PSG. Est-ce qu'ils peuvent le faire contre la Juve?
J'avais dit avant le match retour Barça-PSG que c'était impossible.
Donc allez dire que c'est possible.
Et là, vous avez
Là, je vais dire que c'est impossible pour une raison simple.
La dernière fois, il y avait 4 buts, là, il y en a que 3.
Voilà, c'est vrai, il y a un but en moins, mais par contre, la Juve, pour moi, est une bien meilleure défense, gardien compris, et ça, c'est important quand on voit les matchs de Kevin Trapp, pardon pour lui. Gardien compris, quand on a Buffon et la défense de la Juve, c'est au-dessus du PSG dans ce secteur du jeu, donc je ne les vois pas se disloquer, se liquéfier comme l'a fait le PSG il y a un mois, mais après je peux me tromper.
Bah ouais, tout est possible, plus que jamais cette saison. On l'a vu avec des scénarios incroyables, mais j'ai tendance à penser que la défense de la Juventus de Turin c'est pas Walt Disney. C'est-à-dire que c'est pas Mimi, c'est pas Mickey, c'est pas Picsou, c'est Bonucci, c'est Chiellini, c'est Daniel. Non, vous voyez ce que je veux dire?
C'est sérieux, c'est ça.
Ah, c'est ce qu'on appelle des clients. Des oui. clients. Voilà. Pas des usagers.
Mais surtout, peut-être la question, c'est est-ce que ce Barça-là peut faire une remontada?
Oui, parce qu'ils ont, ils ont les trois meilleurs joueurs quand ils mm-hmm. collaborent ensemble de manière presque fusionnelle, j'ai envie de dire, au monde. Mais évidemment qu'ils peuvent en mettre quatre. Ils sont tellement fantastiques.
Mais elle n'a pas fonctionné, par exemple, au match aller, effectivement.
Non, elle n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ça ne s'est pas du tout bien passé, mais est-ce que... Ouais, tout est possible. Je veux dire, si vous me dites est-ce que Lyon peut en mettre 4, je vous dis non. Mais si vous me dites est-ce que Messi, Neymar et Suarez ils peuvent en mettre 8. Non, mais j'exagère, mais c'est la crème.
Mais attention, cette année, le milieu de terrain est quand même assez défaillant du côté du Barça.
Et il y a le retour de Busquets, je crois.
Oui, mais Busquets, il a un peu. Il fait pas une saison pleine. Il y a eu des absences, des suspensions, des blessures. C'est plus le taulier incontestable qu'il était, même si quand il est en pleine forme, il peut être bon, mais je sens pas vraiment le Barça. Pour moi, ils sont clairement en déclin, quoi.
Christophe?
J'ai du mal à imaginer la Juventus de Turin, enfin les joueurs aussi pétrifiés que les Parisiens ont pu l'être au match retour. Voilà, Higuain, Mandzukic, Dybala, je les vois pas comme ça.
On se souvient de Bonucci, hein, la phrase de Bonucci qui avait dit cette remontada, c'est parce que c'était pas une équipe italienne. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine confiance.
Et ce qu'on oublie de dire, Annie, c'est que la défense de la Juve, c'est aussi la défense de l'équipe.
Elle a pris que deux buts pour l'instant sur la compétition.
C'est la défense de l'équipe nationale d'Italie.
Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, Bonucci, c'est le meilleur défenseur central du monde actuellement. Voilà. Donc, on parle d'autres joueurs, on parle de Hummels, mais le meilleur, c'est Bonucci. Et il n'était pas dans la liste du Ballon d'Or l'année dernière et ça mérite un carton rouge.
Alors que Pogba y était. Voilà, c'est dit.
Nous reviendrons demain dans Radio Foot International, évidemment, en avant-match sur ces deux rencontres très prometteuses de Ligue des Champions. Merci à tous, merci à David Finzel, à Julien Lang qui était à la réalisation. Bonne nuit à tous et à demain. Mmh.